Eh bien, mes amis, dans une semaine, nous aurons un nouveau président de la République. Nous aurons un nouveau président de la République ou pas, puisqu'il se peut que le président actuel soit reconduit, puisque c'est Nicolas Sarkozy et François Hollande qui ont été désignés comme les candidats du second tour. Je suis en train de parler de l'élection présidentielle, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Ça arrive, hein. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la campagne électorale qui a précédé cette élection présidentielle fut pleine de promesses pour le monde présent en France. Des promesses qui peuvent parfois nous laisser sceptiques. Par exemple, le SMIC à 1700 euros pour 35 heures. Personnellement, je vote pour. Mais je vous rassure tout de suite, je n'ai pas voté pour le candidat qui a fait cette promesse. Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le nommer. Et de la même manière, certaines promesses que Dieu nous fait dans sa parole, la Bible, pour le monde à venir, peuvent parfois nous laisser très sceptiques. Et dans le passage que nous allons lire aujourd'hui, la dernière partie du 15e chapitre de la première épître aux Corinthiens, Dieu nous fait une promesse à laquelle vous avez peut-être du mal à croire. La résurrection du corps, la résurrection de votre propre corps. Comment est-ce possible? Et c'est la question que m'a posée l'étudiant dont je vous parlais hier, suite à une soirée que nous avons organisée à l'occasion, ou plutôt 2 semaines après la fête de Pâques. Cet étudiant m'a demandé, mais comment est-ce possible? Comment Jésus a-t-il pu ressusciter? Comment un homme mort a-t-il pu revenir à la vie physiquement? Ça me dépasse. Et c'est peut-être la question que vous vous posez en ce moment. Comment un homme mort peut-il revivre physiquement? C'est une question que les premiers chrétiens se sont sans doute posée. Par exemple, mon mari a fait naufrage en pleine mer et s'est fait dévorer par des poissons, des requins, des baleines, des piranhas. Comment son corps dispersé dans l'océan Atlantique va-t-il bien pouvoir ressusciter? Autre exemple, mon frère, persécuté pour sa foi, s'est fait manger par des lions. Comment est-ce que son corps déchiqueté en 1000 morceaux va-t-il pouvoir revenir à la vie? Comment est-ce possible? Et c'est une question que vous vous posez encore aujourd'hui peut-être. Par exemple, mon meilleur ami est mort dans un accident de voiture. Terrible. Comment son corps en lambeaux peut-il revivre? Ma mère est morte d'un cancer il y a quelques années. Elle a été incinérée. En fait, c'est ce qui est arrivé à ma mère. Elle est morte d'un cancer à l'âge de 50 ans et incinérée. Comment son corps réduit en cendres va-t-il pouvoir se recomposer? Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez? Ce sont des questions que je me pose parfois. Et c'est un peu la question à laquelle va répondre Paul dans la troisième et la dernière partie d'1 Corinthiens, chapitre 15. Un petit rappel des épisodes précédents est nécessaire. C'est un peu comme dans Santa Barbara. Vous connaissez cette série américaine? Ça te barbera, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Santa Barbara, un petit rappel des épisodes précédents est utile. Rappelez-vous. Dans les 19 premiers versets de l'épître du chapitre 15, d'un Corinthien 15, donc Paul va rappeler aux Corinthiens que la résurrection de Christ, on va voir si vous avez suivi, est un fondement d'une part biblique, parce que Christ est mort et ressuscité selon les Écritures, et un fondement historique, parce que Jésus est ressuscité le troisième jour, selon la façon sémitique de compter les jours, vendredi, samedi, dimanche. Okay. C'est un fondement biblique historique qui a des retentissements, d'une part sur notre foi qui est fondée, validée, et d'autre part sur nos péchés qui sont pardonnés. C'est clair? Okay. Hier soir, nous avons vu que la victoire est assurée. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité, il est les prémices de la résurrection, et parce qu'il reviendra pour détruire le dernier ennemi, c'est-à-dire la mort. La victoire est assurée, mais le combat continue, le combat continue. Et quels sont les deux combats à mener en attendant le VE Day, le Victory in Europe Day? Le combat de l'évangile et le combat de la sainteté. Et une chose que j'ai oublié de préciser hier soir et que, dont j'aimerais vous faire part, c'est que Paul, en fait, s'adresse aux Corinthiens pour les reprendre à ce niveau. Je vous lis, ne cherchez pas 1 Corinthiens, il me semble, chapitre 4, verset 8 et verset 10. Il est très ironique, Paul, quand il dit ça. Corinthiens, les petits loups. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire là? Les Corinthiens pensent être déjà arrivés à la fin. Certains pensent que la résurrection est déjà arrivée et qu'il n'y a pas de résurrection corporelle à attendre. Par conséquent, ben, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Certains font n'importe quoi avec leur corps. Certains fréquentent des prostituées. Et l'apôtre Paul le dit, les petits loups, l'heure est peut-être à la joie, c'est vrai, mais pas encore à la fête. Pourquoi? Parce que le jour où Jésus reviendra pour détruire la mort n'est pas encore arrivé. D'accord? La victoire est donc assurée, oui, vous allez ressusciter. Mais le combat continue. Après avoir donc démontré la résurrection de Christ, des versets 1 à 19, Paul a démontré dans la suite, des versets 20 à 34, la résurrection des morts. Parce que si Christ est ressuscité, ça veut dire que les morts ressuscitent. Et dans la troisième et la dernière partie de ce chapitre, Paul va répondre à une question des Corinthiens. Très bien, nos corps vont ressusciter, mais comment ça marche? Une question que Michel Chevalet, pour les plus vieux d'entre nous, posait sur TF1. C'est un chroniqueur scientifique. Comment ça marche? Concrètement, comment est-ce possible? Et c'est la question, d'ailleurs, que Paul reprend. Si vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps revient-il? Est-ce que vous voyez la logique de l'argument? C'est très logique ce que dit Paul. Christ est ressuscité, les morts ressuscitent. Question des Corinthiens, mais comment les morts ressuscitent-ils? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans les quelques minutes qui vont suivre. Et j'aimerais que nous retenions aujourd'hui une seule chose finalement. C'est que nos corps, si vous avez placé votre confiance en Christ, votre corps sera ressemblant à votre corps actuel, mais différent. Ça va, c'est pas trop dur? Votre corps sera ressemblant à votre corps actuel, mais différent. On y va? C'est parti? 1 Corinthiens, chapitre 15, des versets 35 à 58, en commençant par les versets 35 à 44. Premièrement, nous allons voir que notre corps sera changé. Deuxièmement, nous allons voir que notre corps sera céleste. Troisièmement, nous allons voir que notre corps sera couvert d'incorruptibilité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai essayé de vous aider à mémoriser cette structure dans la mesure où tous les adjectifs commencent par la lettre C. Changé, céleste, couvert d'incorruptibilité. Premièrement donc, notre corps sera changé. Des versets 35 à 44. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semés corruptibles, on ressuscite incorruptibles. Semés méprisables, on ressuscite glorieux. Semés plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semés corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et je rappelle que vous avez le plan de cette intervention à la page 6 de vos livrets. Notre corps, votre corps sera changé. Alors dans ces versets où les questions, vous avez vu, hein, de semences, de grains, de blé, d'animaux, d'oiseaux, de poissons, de piranhas, de soleil, d'étoiles. Paul n'est pas du tout en train de donner un cours de botanique ou d'astronomie. Pas du tout en fait. Son propos est toujours théologique et éthique, comme nous allons le voir. Et à la question posée au verset 35, hein, regardez encore avec moi, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? L'apôtre répond dans un premier temps que notre corps, c'est-à-dire celui des croyants, le vôtre, si vous avez placé votre confiance en Christ, que votre corps sera changé. Changé. Sur le modèle de deux réalités qui font partie de notre vie et de notre expérience quotidienne. Est-ce que vous avez vu la première réalité sur laquelle Paul attire notre attention, des versets 36 à 38? Quelle est-elle, cette réalité de l'expérience quotidienne? C'est la transformation d'une semence en un autre corps, n'est-ce pas? Des versets 36 à 38. Ce que nous semons, une graine par exemple, meurt pour être changée, c'est-à-dire pour reprendre vie, sous une autre forme. Une plante, en l'occurrence. Mais nous avons tous fait ça à l'école, notamment. Je me rappelle de mes premières expériences botaniques. Quand j'étais en école primaire, j'avais pris une petite assiette, j'avais mis du coton, j'avais mis une graine, j'avais arrosé la graine, d'accord? Et puis au fil du temps, qu'est-ce que vous remarquez? Mais que ça pousse et que la graine commence à mourir quelque part pour donner lieu à une plante. Enfin, j'ai fait ça dans mon enfance et c'est peut-être votre cas. Alors je suis bien conscient que le parallélisme entre la transformation d'une graine et la résurrection d'un corps n'est peut-être pas parfait, mais il y a au moins un point commun fondamental entre les deux processus. Quel est-il, ce point commun? Il est fondamental. Dans les deux processus, dans les deux cas, la mort n'est en aucun cas un obstacle, mais la condition de la transformation, vous comprenez? Dans les deux cas, la mort n'est pas du tout un obstacle à la transformation. Au contraire, la mort est la condition presque sine qua non de la transformation et de la vie future. Autrement dit, la mort n'est pas la fin. La mort constitue simplement un changement, un simple changement. Notre corps sera changé. Si l'apôtre Paul avait vécu à notre époque, en 2012, il aurait peut-être attiré notre attention sur un autre phénomène que vous avez peut-être étudié dans le cadre de vos études, si vous avez fait des études scientifiques. De quoi suis-je en train de parler? Je suis en train de parler de la composition moléculaire de notre corps. Savez-vous que la biochimie nous apprend par exemple que la composition moléculaire de notre corps est changée pendant un cycle de 7 ans? Toute la composition moléculaire de notre corps est changée pendant un cycle de 7 ans. L'apôtre Paul aurait pu très bien attirer notre attention sur cette réalité, mais en fait, il attire notre attention sur une autre réalité. Est-ce que vous l'avez remarqué, cette réalité? Les versets 39 à 41. La diversité des chairs et des astres. Et vous êtes peut-être en train de vous demander, mais quel rapport? Pourquoi est-ce que Paul attire notre attention sur la diversité des chairs et des astres pour parler de la nature du corps ressuscité? Vous allez voir. Là encore, il s'agit d'un phénomène auquel nous pouvons assister dans la vie de tous les jours, dans le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que dans sa puissance créatrice, le Dieu de la Bible a donné naissance à une diversité de chair, n'est-ce pas? La chair, c'est-à-dire la matière dont le corps est fait. Celle des hommes, par exemple, la vôtre. Celle des animaux, qui est différente, celle des oiseaux et celle des poissons, qui est différente. Mais Dieu a également créé une diversité de corps. Le corps, c'est-à-dire la forme que prend l'existence d'un être. Par exemple, regardez encore avec moi les versets 39 à 41, des corps célestes, des corps terrestres, le soleil, la lune et les étoiles. Et la logique est la suivante, mais... Est-ce que vous suivez la logique de Paul? Si Dieu est capable de créer tant de chairs différentes, si Dieu est capable de créer, comme nous le croyons, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, sans matériaux préexistants, d'accord? Si Dieu est capable de créer tant de chairs différentes, s'il est capable de créer ex nihilo, à partir de rien, comme il a fait à l'origine, qu'est-ce qui l'empêche? Mais qu'est-ce qui l'empêche de créer un corps différent? Quand nous ressusciterons, la réponse est strictement rien, n'est-ce pas? Si tu as créé à partir de rien, s'il est capable de créer tellement de chairs différentes, qu'est-ce qui l'empêche de créer un corps différent? Quand nous ressusciterons, réponse, rien. Ce corps sera changé, encore incorruptible, Ce corps méprisable sera changé en corps glorieux. Ce corps faible sera changé en corps fort. Ce corps naturel sera changé en corps spirituel. Ce sera un corps, contrairement à ce que les témoins de Jéhovah racontent. J'ai été mangé aux trois brioches la semaine dernière avec un étudiant du GBU avec lequel j'ai préparé la soirée de la résurrection. Et nous nous sommes assis au fond des trois brioches pour être tranquilles, parce que nous allions prier et discuter. Et lorsque je suis descendu pour prendre mon plateau, et je suis revenu, et il y avait deux filles assises à côté de nous. Oh, j'ai dit, c'est pas de bol, quoi. On choisit un lieu tranquille, et il y a deux filles qui commencent à s'asseoir à côté de nous. Bon. Et puis là, bon, on commence à prier, on commence à parler de Jésus. Et puis l'une d'entre elles commence à nous interrompre et à nous dire, mais vous êtes de quelle religion? J'ai dit, nous sommes chrétiens, protestants. Ah, très bien, d'accord. Bon. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Très bien, tu as le droit, hein, pas de problème. Et puis à la fin, vers 2h, parce que j'avais rendez-vous avec mon pasteur pour prier, et quand je ne suis pas là, mon pasteur me fouette. Et la femme nous dit, écoutez, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais en fait, vous vous trompez. Jésus n'est pas du tout ressuscité corporellement. Hein. Ah bon? Boum, une heure de discussion, je suis en retard, je me suis fait fouetter, du coup j'ai été complètement discrédité, je rigole. Bref, tout ça pour dire que cette femme se basait sur 1 Corinthiens 15 notamment, pour dire que Jésus n'était pas ressuscité corporellement et que de la même manière, nous n'allons pas ressusciter corporellement. Mais qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que Paul dit au verset 44? Il parle d'un corps spirituel. Pas seulement d'un esprit, mais d'un corps spirituel. Notre corps sera donc changé. Petite histoire, sur la tombe d'un imprimeur, on pouvait lire ceci, je cite. Le corps de B. Franklin, je ne pense pas qu'il s'agit de Benjamin Franklin, je pense que c'est un homonyme. Le corps de B. Franklin, imprimeur, telle la couverture d'un livre ancien, son contenu effacé et dépouillé de ses lettres et de ses dorures, repose ici, nourrissant ainsi les vers de terre. Mais l'ouvrage ne sera pas perdu, car comme il le croyait, il paraîtra dans une nouvelle édition, plus élégante, corrigée et améliorée par l'auteur. C'est beau, non? C'est magnifique, je pourrais vous envoyer la citation. Son corps repose ici, nourrissant les vers de terre, mais l'ouvrage ne sera pas perdu, car comme il le croyait, il paraîtra dans une nouvelle édition, plus élégante, corrigée et améliorée par l'auteur. Vous voyez, de la même manière qu'une graine peut devenir une plante, vous êtes d'accord avec moi, si vous ne me croyez pas, allez à Jardiland ou dans votre jardin si vous en avez un. De la même manière que Dieu a créé une diversité de chair et de corps dans l'univers que nous pouvons voir tous les jours, eh bien de la même manière, notre corps, votre corps sera changé, changé, changé. Est-ce que vous le croyez dans votre fort intérieur? Est-ce que vous le croyez que votre corps actuel sera changé? Est-ce que vous le croyez ou est-ce que vous avez tendance à sous-estimer la puissance créatrice de Dieu parce que vous ne la comprenez pas? Est-ce que vous croyez que votre corps sera changé ou est-ce que vous doutez de la puissance créatrice de Dieu? Vous savez, si je devais comprendre le principe du moteur à explosion de ma voiture, si je devais comprendre le principe du moteur du TGV pour prendre le train, ou si je devais comprendre le principe du quadri-réacteur à double pont pour monter dans un Airbus A380, mes moyens de locomotion pour venir au congrès seraient très limités. J'aurais le choix entre à pied, à trottinette ou à vélo. Si nous devions comprendre quelque chose pour pouvoir l'expérimenter, nous ne pourrons pas faire grand-chose dans la vie. C'est un peu la même chose avec Dieu. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas comment ça va se passer que cela ne va pas se passer. Et c'est un peu ce que j'ai répondu à mon ami mercredi soir qui m'a répondu, mais c'est invraisemblable. En fait, ce n'est pas tant la résurrection qui est invraisemblable, mais c'est notre conception du monde. Au 19e siècle, si on avait dit aux hommes que les hommes allaient pouvoir marcher sur la Lune, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, mais cette possibilité aurait été qualifiée d'invraisemblable. De la même manière, si on avait dit aux hommes du 19e siècle qu'on allait pouvoir transplanter un cœur sain dans un corps malade, c'est de la folie. Pourtant, aujourd'hui, ce sont des choses tout à fait vraisemblables, non? 400 transplantations cardiaques en France aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est un événement banal, mais c'est quelque chose de tout à fait vraisemblable. Vous comprenez? C'est notre conception du monde, en tout cas ma conception du monde, qui est limitée, qui m'empêche parfois de croire que certaines choses peuvent arriver. Pas parce que ces choses-là sont invraisemblables en soi. Vous comprenez ? Il en est de même pour la résurrection. Notre corps, votre corps sera changé. C'est clair ? Deuxièmement, des versets 45 à 49, notre corps sera céleste. On continue ? Je lis pour nous. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le dernier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire dans ces versets quelque peu mystérieux. Je crois qu'en un mot, il nous dit que notre corps, votre corps sera céleste dans le sens adapté à la vie spirituelle au ciel dans le royaume de Dieu. Mais ce changement, parce que notre corps sera changé, ce changement se fera selon un certain ordre. Est-ce que vous avez vu l'ordre dont il est question dans ces versets ? Premièrement, le corps naturel, caractérisé par une nature humaine déchue, d'accord ? Et ce corps naturel doit précéder quoi ? Le corps céleste ou spirituel, qui ne veut pas du tout dire immatériel. Et c'est un peu ce que dit Paul le verset 49. Hein. Regardez encore le verset 49 qui est un verset clé. De la même manière que nous portons d'abord aujourd'hui en ce moment l'image ou la marque de qui ? De qui portons-nous l'image en ce moment ? Selon le verset 49. C'est dans le texte. D'Adam, ok ? Littéralement, l'homme de la terre, le terrien, l'homme fait à partir de la poussière, à partir de l'argile. Dans le monde présent, de la même manière, nous porterons ensuite l'image de qui ? Du dernier Adam, l'homme du ciel, dans le monde à venir. Et c'est sur le modèle du corps ressuscité de Jésus que notre corps sera céleste, semblable au sien, et qu'il combinera des éléments de continuité, ce sera un corps, mais de discontinuité, ok ? Notre corps sera ressemblant à notre corps actuel, mais en même temps, il sera différent. La résurrection, c'est la même personne qui ressuscite. Rebecca Parleba, Anna Hopkins, Jungmin Lee, Caillou, Nathalie Vatio, Aude Gérard, Anne Parleba, Julie Delacote, Scott Harris, Rebecca Thorne, Joël Berger, William Rosboom, Cécile Mahalouf, Keith Butler, Paul Young, Shirazad Kinwani. La résurrection, c'est la même personne qui réussite. Jonathan Chintrier, Daniel Mullins, Pierre Banvart, Nicolas Odo, Nathalie Velduizen, Sandra King, Deborah Mullins. La résurrection, pardon, Isabelle Cottreau, Jean-Marc Savin. La résurrection, c'est la même personne qui ressuscite, mais dans un corps différent. Henri Blocher. Lui, j'en suis pas sûr, personnellement. Don Carson. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? La résurrection, c'est la même personne qui ressuscite, simplement dans un corps différent. Différent. Notre corps sera ressemblant à notre corps actuel, mais différent. Un corps changé, un corps céleste, et enfin, un corps couvert d'incorruptibilité. C'est la troisième, la dernière partie de notre intervention, des versets 50 à 57. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre corps sera couvert d'incorruptibilité. C'est ce que Paul dit dans ses versets. Regardez encore le verset 52 avec moi. Les morts ressusciteront comment ? Incorruptibles. Le verset 53, il faut en effet que ce corps corruptible revête quoi ? L'incorruptibilité. Verset suivant, 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu quoi ? L'incorruptibilité. Vous faites un malheur au Scrabble avec ce mot. Hein. Et pourquoi faut-il que ce corps revête l'incorruptibilité, verset 54. Pourquoi est-ce une nécessité ? Pourquoi ? Eh bien, je crois que la réponse est au verset 50. Regardez encore, parce que nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu, dans notre corps actuel. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cet homme assoiffé qui est dans le désert ? Est-ce que vous connaissez cette histoire ? Allez, marrante, allez, je vous la raconte. C'est donc l'histoire d'un homme qui est assoiffé dans le désert et qui rencontre un marchand de cravates. 5 € la cravate, c'est pas cher, c'est cachère. 5 € la cravate, tiens, tu veux une cravate, mon frère ? Pas de problème, 5 €. Et là, l'homme assoiffé le regarde avec des yeux, mais ce dont j'ai besoin, ce n'est pas d'une cravate, c'est d'un bon verre d'eau, un bon verre d'eau fraîche. Je ne veux pas de ta cravate. Et le marchand de cravate s'en va. Il continue sa route et au bout de quelques heures de marche, il aperçoit un deuxième marchand de cravates. Marchand de cravates, cravate 2 €, c'est pas cher, t'inquiète pas, c'est une cravate qui va te durer toute la vie. Et là, notre homme le regarde, mais complètement abasourdi. Mais ce dont j'ai besoin, ce n'est pas d'une cravate, c'est d'un verre d'eau, un coca bien frais. Et l'homme trace sa route, et le marchand de cravates aussi. Au bout de quelques heures de marche, il rencontre un troisième marchand de cravates. Cravate, 1 € la cravate, 10 € pour les 2 cravates, non plutôt 2 € pour les 10 cravates, le contraire, sinon c'est un gros arnaqueur. Hein. Et là, notre ami le regarde ahuri, mais ce dont j'ai besoin, c'est pas du tout une cravate, j'ai soif. La nuit commence à tomber et là, notre ami commence à apercevoir un palais somptueux à l'horizon. Il se pince, ce n'est pas un mirage. Un palais somptueux. Il court avec les dernières forces qui lui restent. Il sue sang et eau. Assoiffé, la langue qui pend, il dégouline. Il arrive, il est en train d'haleter. Il frappe à la porte. Une grosse porte en bois, un palais majestueux. Et là, il entend quelqu'un qui arrive. Et il entend de l'autre côté de la porte l'eau qui ruisselle d'une fontaine. Et il se délecte à l'avance de l'eau qu'il va pouvoir boire. Il frappe. Un homme arrive, habillé sur son 31. L'homme assoiffé lui dit, « Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. J'ai soif, j'ai très soif. » Et l'homme lui dit, « Désolé, nous ne rentrons pas sans cravate ici. » C'est tout ? Ok. Une autre ! Bon, d'accord. C'est ça. Alors, je suis conscient que cette analogie a vraiment ses limites, ok ? Mais de la même manière que cet homme ne peut pas rentrer dans ce palais somptueux sans cravate, de la même manière que nous ne pouvons pas rentrer dans certains casinos en jeans et en baskets, de la même manière qu'une tenue correcte est exigée si vous voulez aller dans un club privé, bien de la même manière, nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu avec ce corps actuel. Une transformation radicale est nécessaire, absolument nécessaire. Et cette transformation consiste en un revêtement d'incorruptibilité qui se fera littéralement, verset 52, en un atome. J'ai regardé l'original, le grec, en 52, littéralement c'est en un atome. Et ça fait beaucoup sourire mes amis physiciens. En un atome, c'est-à-dire une unité indivisible, quelque part. Une fraction de seconde tellement courte qu'elle ne peut être divisée. En un clin d'œil, au son de la trompette, verset 52, un instrument de musique généralement associé, n'est-ce pas, au jugement dans la Bible, jugement qui sera inauguré par le retour du Christ. Et ce jour-là, verset 54 et 55, regardez avec moi, s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Et si vous connaissez votre Bible, dans ce verset, Paul cite 2 passages de l'Ancien Testament. Lesquels ? Ésaïe 25, verset 8. Et si vous avez une Bible d'étude, elle vous dit peut-être Osée, chapitre 13, verset 14. 2 passages qui annoncent quelque part la victoire définitive de Dieu sur ses ennemis et notamment sur la mort. Une victoire acquise, comme nous l'avons vu, hein, par Jésus. qui a satisfait à toutes les exigences de la loi. Jésus a satisfait à toutes les exigences de la loi. Il a vécu la vie parfaite que nous n'aurions jamais pu vivre. Et il a subi la condamnation que nous aurions dû subir. Jésus a toujours satisfait pleinement et parfaitement à toutes les exigences de la loi. Il a accepté de mourir à notre place pour subir le jugement que nous méritions. Et il est ressuscité, preuve de sa victoire sur la mort. Une victoire à laquelle Dieu, dans sa grâce, nous associe, dont il nous fait bénéficier. Et c'est pour ça que Paul dit en verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grâce, Dieu nous associe à la victoire de Christ sur la mort. » Si vous avez placé votre confiance en lui, vous allez suivre ses traces. Vous êtes mort avec Christ, vous allez ressusciter avec lui. Est-ce que vous connaissez Johnny Erickson? Quelqu'un connaît le témoignage poignant de Johnny Erickson? Franchement, c'est l'un des livres que j'ai lu le plus vite dans ma vie. C'est un livre qui m'a été donné. Bon, la couverture date des années 60. Vous voyez, c'est une couverture poussiéreuse, marron clair, avec une dame qui est un peu habillée dans les années. Bon, bref. Je passe, hein, il faudrait juste le réactualiser. Franchement, j'ai littéralement bu les paroles de ce livre. Johnny Erickson, c'est une dame qui a été victime d'un accident de plongée à 17 ans. Un accident qui l'a laissée paralysée de la tête aux pieds. C'est le récit de sa vie. Franchement, si vous ne savez pas quoi lire cet été, lisez « Qu'est-ce que je vous ai dit hier ?» Je m'en souviens plus, c'est pas grave. Johnny Erickson et le livre de Don Carson, peut-être, « Along the Lord », qui a été traduit en français. Comment s'appelle ce livre en français déjà ? Jusque d'accord, merci Manu. Et voilà ce que Johnny Erickson dit dans un autre livre, je la cite. « J'ai de l'espoir pour l'avenir. La Bible parle de nos corps qui seront glorifiés et je sais que cela veut dire. Et je sais ce que cela veut dire maintenant. Il s'agit du temps où, après ma mort ici-bas, je serai sur mes pieds en train de danser. » C'est de l'espoir pour le quadraplégique. C'est de l'espoir pour tous ceux qui, ici-bas, ont des problèmes physiques, psychologique ou émotionnel, vous en serez débarrassé dans le nouveau corps qui sera le vôtre un jour. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Cette femme est toujours en vie. Et l'assurance qu'un jour elle pourra danser, danser pour quelqu'un quadraplégique qui ne peut bouger que la tête. Danser, quelle joie! Alors oui, la mort reste un ennemi pour nous. Nous allons tous mourir un jour, à moins que le Seigneur revienne avant, auquel cas nous ne passerons pas par la mort physique. La mort reste un ennemi redoutable. Vous avez peut-être été confronté à la mort de vos amis, des membres de votre famille. Mais pour ceux qui ont placé leur confiance en Christ, et si c'est votre cas, la mort est un ennemi vaincu. Vaincu. La mort a perdu. Les souffrances que nous vivons dans ce monde, les souffrances que vous vivez peut-être aujourd'hui, en ce moment, dans votre tête, dans votre corps, dans votre âme, ces souffrances-là, aussi terribles soient-elles, elles ne sont que temporaires, passagères. Leur fin est proche. Et Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, va même dire que ces souffrances sont très légères par rapport au poids de la gloire à venir, un jour sur le modèle de la résurrection de Jésus. Nous ressusciterons, vous ressusciterez dans un corps changé, céleste, couvert d'incorruptibilité. Un corps ressemblant à votre corps actuel, mais différent. Un corps ressemblant, mais différent. Alors j'aimerais, dans les minutes qui nous restent, conclure un peu de manière générale ce que nous avons dit sur la résurrection à la lumière d'1 Corinthiens chapitre 15, et en particulier m'attarder quelques minutes, rassurez-vous, sur le verset 58. La résurrection est un fondement biblique historique qui a de retentissement sur notre foi, sur notre péché. Notre foi a validé, nos péchés pardonnés. La victoire est assurée, c'est vrai. Christ est ressuscité, prémisse de la résurrection. Il détruira le dernier ennemi, la mort, ok. Deux combats à mener. Comment vivre en attendant le jour où reviendra, où Christ reviendra pour vaincre la mort, vous vous rappelez, en menant le combat de l'évangile et de la sainteté. Mais aussi, regardez le verset 58 pour finir avec moi. Ainsi, c'est un peu la récapitulation de tout ce que veut dire Paul, l'implication théologique, éthique de la résurrection. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Comment vivre en attendant ce jour où Jésus reviendra pour détruire, vaincre le dernier ennemi ? En étant ferme, inébranlable dans notre confiance en l'Évangile, c'est-à-dire en la mort et en la résurrection de Jésus. Et en progressant, littéralement dans le texte, en surabondant. Toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Deux réflexions pour conclure qui font l'objet des deux derniers points de votre plan. J'aimerais voir dans un premier temps que la résurrection donne un sens au travail, et dans un dernier temps que la résurrection donne un sens à la vie. Alors le travail dont il est question au verset 58, vous avez vu avec moi, l'œuvre du Seigneur, le travail, ce travail, cette œuvre peut faire référence à l'évangile que nous cherchons à annoncer dans nos églises et dans le GBU. Quel est le but du GBU ? Faites connaître la Bible et par elle, l'évangile. Merci Caillou, remarque, tu étais un peu responsable du CE cette année. Dans le monde universitaire. Et cette œuvre n'est pas toujours facile, n'est-ce pas ? Je ne sais pas comment vous avez vécu cette année dans vos groupes locaux, dans vos efforts d'évangélisation, de témoignage. Mais cette œuvre n'est pas toujours facile, n'est-ce pas ? À quoi bon inviter mes amis au GBU ? Dites-moi, à quoi bon ? Ils sont tellement indifférents, je ne dis pas tous, voire même hostiles à la foi chrétienne. À quoi bon distribuer 1000 tracts imprimés sur YesPrint, pas cher, c'est vrai, mais quand même 1000 tracts ? À quoi bon les distribuer à la sortie du rue ? À quoi bon imprimer 100 affiches et les placarder dans les couloirs de la fac pour qu'elles soient arrachées ? Seulement 3 personnes. 3 personnes sont venues à notre dernier dialogue Veritas. Et aucune n'est revenue pour assister à nos études bibliques. J'ai l'impression, c'est peut-être ce que vous vous dites, j'ai l'impression que le temps et les efforts que je consacre au travail pour Dieu, à l'annonce de l'évangile dans mon église, dans mon GBU, j'ai l'impression que le temps que je consacre à Dieu est vain, ne sert strictement à rien. C'est tellement décourageant. C'est tellement décourageant. À quoi bon ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? À quoi bon après tout ? À quoi ça sert tout ça ? À quoi bon ? Eh bien, mes amis, permettez-moi de vous dire que si la vie sur terre se limite au monde présent, s'il n'y a pas de vie après la mort, si les morts ne ressuscitent pas, en effet, à quoi bon ? À quoi bon ? Ça ne sert strictement à rien. Mais la vie ne se limite pas au monde présent, il y a une vie après la mort, il y a la résurrection. Dans sa grâce surabondante, Dieu peut nous permettre de voir le fruit de notre travail dans le monde présent, il le peut. J'aimerais vous raconter l'histoire de Frank Jenner. Histoire formidable. Vous connaissez l'histoire de Frank Jenner ? Je la prends avec des pincettes parce que j'ai remarqué quelques différences dans la façon dont elle a été racontée. Mais quand même, je pense que ce que je dis est vrai. Je m'appuie en tout cas sur un témoignage fiable. Frank Jenner, c'est un marin australien. Oh là là, encore un. Ils sont partout. Suivez mon regard. Je rigole, je les aime bien, ma femme est australienne. Frank Jenner, qui devient chrétien en 1937 et qui consacre une partie de son temps à distribuer des tracts dans l'une des rues les plus fréquentées à Sydney. Libby, Daniel, Paul, Sandra, Déborah, la George Street. Vous confirmez, George Street, c'est apparemment l'une des rues les plus passantes d'Australie. C'est un peu les Champs-Élysées, peut-être. Non ? C'est pas grave. Bref, c'est une... Ouais. Bon, les égouts des Champs-Élysées, je sais pas si, bref. En 16 ans, tenez-vous bien, cet homme distribue des tracts à des centaines, peut-être à des milliers, je ne veux pas exagérer, de passants. Mais il ne voit aucun fruit de son travail, aucun. Il donne un tract à un militaire en permission qui va rater son train, il donne un tract à un autre militaire en permission dont le bateau accosté sur les côtes de Sydney qui doit repartir, bref. Et un jour, un pasteur anglais lui apprend, le pasteur anglais, qu'il a rencontré 4 personnes qui sont devenues chrétiennes après avoir rencontré cet homme. Sauf que cet homme ne l'a jamais su. Jamais. Et en entendant cela, Frank Jenner, d'un certain âge, a été ému jusqu'aux larmes. Et il est mort 2 semaines après. Il n'a vu aucun fruit visible de son travail en 16 ans. Il y a 2 semaines de sa mort, il apprend que 4 personnes, peut-être plus, se sont tournés vers Dieu grâce à un tract qui leur avait été distribué. Dieu peut permettre dans sa souveraineté que nous voyons le fruit de notre travail dans nos GBU locaux, c'est vrai. Il peut nous permettre de rencontrer des gens qui deviennent chrétiens sur le champ ou en quelques années. C'est tout à fait possible. Mais dans sa souveraineté, parce que Dieu est un Dieu souverain et libre, et il fait ce qu'il veut, Dieu peut aussi nous permettre, que nous ne voyons le fruit de notre travail que dans le monde à venir. Peut-être pour nous rendre humbles et dépendants de lui dans la prière. Je vous renvoie à la parabole du semeur, hein, Marc chapitre 4, versets 8 à 20, où Jésus promet qu'une partie de ce que nous semons tombe dans une bonne terre et que certaines personnes entendent l'évangile, l'acceptent et portent du fruit. Ce que nous ne verrons peut-être qu'au ciel. Donc le travail, vous voyez, dont il est question, peut faire référence à l'évangile. Mais le travail peut aussi faire référence, de manière plus générale, à toute activité humaine dont le but est simplement de servir Dieu à la maison, à la fac ou au travail. Et là, je pense à tous ceux qui travaillent, qui sont dans le monde de l'entreprise, qui ont un emploi ou qui s'occupent d'enfants. Je pense à mon épouse et à moi-même, notamment. À quoi bon vivre, pensez-vous peut-être? À quoi bon vivre ma foi chrétienne au bureau? À quoi bon vivre ma foi dans un monde où règne parfois l'égoïsme, la corruption, le mensonge et l'injustice? Je me tue à tout faire pour essayer d'être honnête, et mes collègues n'en ont que faire. Et c'est eux qui obtiennent une prime à la fin du mois. À quoi bon? Mais quel intérêt y a-t-il à penser aux autres plutôt qu'à moi-même? À refuser de mentir et à tricher? À quoi bon? À quoi ça sert tout ça? Eh bien là encore, mes amis, si la vie se limite au monde présent, s'il n'y a pas de vie après la mort, si les morts ne ressuscitent pas, en effet, à quoi bon? Cela ne sert strictement à rien. Mangeons et buvons, car demain, nous, absolument. Mais comme vous le savez, la vie ne se limite pas au monde présent. Il y a une vie après la mort. Il y a la résurrection. Le jour où Jésus reviendra, où il inaugurera un monde nouveau, où Dieu jugera les vivants et les morts, et où il tiendra compte de notre façon de vivre. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Et où la justice triomphera. Vous voyez comment la résurrection donne un sens à ce que nous faisons dans le cadre de notre travail, que ce soit dans le GBU, dans l'Église ou dans le monde de l'entreprise. C'est clair? Les implications fondamentales, éthiques de la résurrection. Et pour finir, les implications existentielles de la résurrection. La résurrection donne un sens à la vie. Je serai bref. Dans sa confession, une sorte d'autobiographie morale, Léon Tolstoï, ça vous dit quelque chose, Tolstoï? J'habitais au cours Tolstoï à Villeurbanne, j'en étais très fier pendant 9 mois. Voici ce qu'il écrit, Tolstoï, hein, en 1882. Ma question, celle qui, à 50 ans, me conduisait au suicide, était des plus simples. Elle est dans l'âme de tout homme. Depuis l'enfance, stupide, jusqu'au plus sage vieillard. Sans elle, la vie est impossible, comme je l'ai éprouvé moi-même. Voici en quoi elle consistait. Qu'est-ce qui sortira de ce que je fais aujourd'hui, de ce que je ferai demain? Qu'est-ce qui sortira de toute ma vie? Ou peut-être, on peut encore la formuler ainsi. Pourquoi dois-je vivre? Pourquoi dois-je faire quelque chose? Ou encore autrement, y a-t-il dans la vie un but qui ne se détruise pas par la mort inévitable qui m'attend? Question fondamentale, non? Et à cette question, la réponse est claire. Oui, Léon Tolstoï. Oui, 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 et oui. Il y a quelque chose, il y a la résurrection. La résurrection donne non seulement un sens à notre travail, mais aussi un sens à la vie. Et c'est peut-être la réponse de Paul au livre de l'Ecclésiaste. Quelle est la phrase clé de l'Ecclésiaste? Vous vous rappelez? Vanité, des vanités, tout est vanité. Dans 1 Corinthiens 15, est-ce que vous savez quel mot revient à 5 reprises? Vain. V-A-I-N. Voilà la réponse de Paul à l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste dit vanité des vanités, tout est vanité. L'apôtre Paul répond non. Non, la vie n'est pas vaine, mais elle a bel et bien un sens. À la lumière de la résurrection, à la lumière de la vie après la mort, à la lumière de l'éternité. Et dans un sens, je précise que c'est précisément ce que pensait l'Ecclésiaste. Je fais référence au chapitre 3, au verset 10 et 11 notamment. Mais je vais laisser le soin à Sylvain Romerowski de nous l'expliquer. On prie ? Comme à l'accoutumée, je vous propose de prendre quelques secondes de réflexion dans le secret de vos cœurs pour réfléchir à ce que nous avons vu au cours de cette journée supplémentaire, et notamment à la lumière d'1 Corinthiens chapitre 15, l'un des chapitres les plus importants de toute la Bible. La résurrection, un fondement biblique. Christ est mort et ressuscité selon les Écritures. La résurrection, un fondement historique. Christ est ressuscité le troisième jour. La résurrection, un fondement qui a des retentissements sur notre foi fondée, validée, sur nos péchés pardonnés. La victoire est assurée. Christ est les premiers fruits de la résurrection. Il reviendra pour détruire la mort, le dernier ennemi. Une victoire assurée. Mais un combat qui continue, celui de l'Évangile et de la sainteté. Et en attendant le jour où Jésus reviendra, peut-être prier pour que le Seigneur nous aide à vivre en menant le combat de la sainteté, de l'Évangile, et en attendant que nos corps soient changés, célestes, couverts d'incorruptibilité, notre corps qui sera ressemblant à notre corps actuel mais changeant, mais ressemblant et différent, pardon. Nous pouvons prier que le Seigneur nous aide à comprendre que la vie a un sens à la lumière de la résurrection. Que le travail a un sens à la lumière de la résurrection. Et si vous posez des questions, c'est peut-être le moment de venir à Jésus, dans la repentance et dans la foi, pour être associé à sa victoire. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment de ce que tu nous parles de ta parole et que cette parole est vivante par le biais de ton Esprit Saint. Et nous prions que tu changes, transformes nos vies, pour que nous vivions conformément à ta volonté, celle que tu nous as clairement révélée. Merci parce que nos corps seront changés, célestes, couverts d'incorruptibilité. Ils seront ressemblants à notre corps actuel, mais différents. Aide-nous à vivre, à passer le présent au futur, à vivre notre vie présente à la lumière de l'éternité, de la vie après la mort, de la résurrection. Pour ta gloire et ton honneur, au nom de ton Fils, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'en supplions. Amen. Merci. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Cinq minutes pour des questions facilement. Voici venu le temps d'essayer. Bref, vas-y. Scott!
Monsieur l'orateur, je pense savoir comment tu répondras à cette question. Et parce que tu n'as pas adressé cette question, je la pose.
Vas-y.
Tu parles de la parole du Seigneur, tu parles de la vie après la mort.
Oui. Alors ça part d'un présupposé gnostique. Ouais. Non mais moi j'essaye de, comment dire, franchement, excellente question Scott, merci, mais j'essaie de répondre à la question derrière la question. On part du présupposé que l'âme vaut mieux que la matière, que le corps, pardon, et que l'esprit vaut mieux que le corps. C'est exactement ce que pensaient certains Corinthiens, des chrétiens de TTS. Vous connaissiez les chrétiens de TTS, hein ? Très très spirituels. On ne se marie pas, nous. Pourquoi ? Parce qu'on vit comme les anges dans le ciel. Et toute relation physique avec une femme va contribuer à notre souillure, quelque part. Et Paul répond à ce présupposé en disant « Je pense que le corps est fondamentalement bon. Ce que Dieu a créé est bon. J'en veux pour preuve la façon dont Dieu a qualifié sa création dans le livre de la Genèse. Ce que Dieu a créé est bon. » Je pense qu'il faisait référence notamment à la création physique d'Adam et Ève. Donc pourquoi la résurrection corporelle ? Peut-être pour affirmer le caractère fondamentalement bon de la création matérielle que Dieu a faite à l'origine. et peut-être pour expliquer qu'une existence immatérielle n'est pas une forme supérieure d'existence. Parce que ça, c'est peut-être ancré dans notre mentalité. On a l'impression parfois que l'esprit est tellement plus pur que le corps. Je ne pense pas que la Bible nous invite à aller dans ce sens. Et je crois que Dieu a un corps. Si on croit que Dieu est incarné, Dieu est esprit, on croit en lieu de trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, et qu'aujourd'hui Jésus est ressuscité corporellement. Et donc je crois que Jésus, en revêtant notre humanité, affirme clairement ses principes, le caractère fondamentalement bon de la création, et que l'existence immatérielle n'est pas du tout supérieure à l'existence matérielle. Scott, est-ce que ça répond aux questions ou pas? Oui. Excellente question. Oui, Héloïse. Alors, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? C'est une question qui relève de ce qu'on appelle l'anthropologie. Et il y a deux options dans le monde évangélique. Il y a la position dichotomiste et la position trichotomiste. La position dichotomiste consiste à dire l'homme est l'âme de son corps. C'est pas de moi, c'est d'Henri Blocher, excusez-moi. L'homme est l'âme de son corps. Il y a une dualité, c'est-à-dire entre l'âme et le corps, d'accord? L'homme est une unité, mais l'homme est l'âme de son corps. La position trichotomiste consiste à considérer que l'homme est corps, âme et esprit. Et là, la position trichotomiste repose sur deux versets bibliques. L'un est Hébreux 4, vous savez, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire que la parole de Dieu est vivante et touchante, et elle va jusqu'à pénétrer jusque dans le cœur, séparant les moelles, etc., l'âme de l'esprit, et un autre. Donc voilà, il y a deux positions, Héloïse, et il faudrait peut-être demander à un trichotomiste de t'expliquer la différence entre l'âme et l'esprit. Je te renvoie notamment à Watchman Nee, qui est trichotomiste, qui a écrit un livre dont je ne me rappelle plus le titre. J'ai du mal à la saisir personnellement. Mais je crois que pour eux, ce qui relève de l'esprit, c'est ce qui relève un peu de la vie spirituelle avec Dieu. Hein, et que ce qui relève de l'âme, c'est plutôt tout ce qui relève de l'homme, dans sa nature humaine. Mais je ne veux pas trop m'avancer. J'ai du mal moi-même à saisir la distinction entre l'âme et l'esprit. Je ne suis pas personnellement convaincu par la position trichotomiste, mais je suis tout à fait ouvert à la possibilité d'en discuter. Ouais. D'accord, mais tu vois, je ne savais pas. Alors l'argument, ouais, tout à fait. Et puis l'argument dichotomiste principal, c'est de dire que dans l'Ancien Testament, le psalmiste notamment parle de l'âme et de l'esprit sans faire de distinction. Il y a ce qu'on appelle en poésie hébraïque des parallélismes, et David interchange très facilement âme et esprit et compare au corps. D'accord. Donc dans l'esprit du psalmiste, il ne me semble pas qu'il y ait une différence entre l'âme et l'esprit, personnellement. D'accord. Il y a peut-être une certaine nuance, mais pas de distinction fondamentale. C'est ce que je pense. Donc voilà, pour te donner une idée et te faire ta propre opinion. Une autre question peut-être aussi facile. Scott, bis repetita. Je pense, ma compréhension biblique de l'eschatologie, c'est-à-dire de la doctrine de la fin des temps, de la nouvelle création, c'est que c'est la nouvelle création, la nouvelle Jérusalem qui descend sur la terre. C'est la terre qui est dans un sens renouvelée. Et il me semble que cette existence sera matérielle. Jacques Buchold pense par exemple qu'il y aura la Joconde au ciel. Il pense qu'il y aura des œuvres d'art. Alors, je n'irai pas personnellement jusque-là, mais c'est pour un peu vous faire comprendre que certaines personnes pensent que l'existence sera vraiment matérielle, qu'il y aura des éléments de continuité, notre corps sera ressemblant, mais en même temps des éléments de discontinuité, notre corps sera totalement différent. Donc il me semble qu'il y aura une existence matérielle dans une nouvelle création, renouvelée. Oui, matérielle, j'en veux pour preuve un peu la résurrection de Jésus, qui était une résurrection corporelle. j'avais pas posé la question de si on va se reconnaître au ciel. Je suis déçu, j'avais préparé tout un speech là-dessus. Oh là là. Merci Caillou. Alors, bonne question. Pour moi, il y a trois textes qui peuvent nous inciter à penser que oui, nous nous reconnaîtrons au ciel et que nous retrouverons peut-être. Je suis en train d'être prudent parce que je suis en train de marcher sur des œufs. Hein. Mais 2 Samuel 12, 23 par exemple. Ne cherchez pas, mais David qui a péché contre Bathsheba, qui a perdu son enfant, espérait revoir son enfant, à mon avis, dans le monde à venir. Hein. 2 Samuel chapitre 12, verset 23. Voilà ce que David dit. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je ? Puis-je le faire revenir ? Moi, j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Je suis d'accord que c'est implicite, mais David a exprimé peut-être l'espérance de revoir. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19, une épître écrite par l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens, rococo galéfico, tété tititi, Philippe Jacques, pipi Jean, Judap. Rococo galéfico, 1 Thessaloniciens 4, 2, pardon, verset 19. Voilà, il faudra que j'apprenne ça à Emma pour qu'elle apprenne les livres du Nouveau Testament par cœur. Qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur à son avènement ? Là aussi, je pense que Paul, dans ce verset, s'attendait à revoir les Thessaloniciens, à les reconnaître au moment du retour de Jésus. Il y a aussi 1 Thessaloniciens 4, 13 à 14, qui implique une reconnaissance mutuelle des croyants, reconnaissance qui est source de réconfort pour tous ceux qui ont perdu leurs proches. Personnellement, je pense qu'il y a une certaine forme de reconnaissance physique au ciel. Merci d'avoir posé la question, je n'y avais pas pensé. Pau et Pierre. Jésus était donc végétarien. Végétalien, non ? Végétarien. Non, je sais pas, je rigole. Pierre avait une question, peut-être ? Excuse-moi. Dernière question, Pierre. Oui. Oui. C'est une excellente question, Pierre. Merci de l'avoir posée. Il est temps de rendre l'antenne. À vous, Cognac G, à vous, les studios. En deux mots, et là, je te renvoie un livre que j'ai acheté édition XL6 qui est d'un certain Henri Blocher. Je ne sais pas si vous connaissez. L'espérance chrétienne. Et il répond à ces questions. La question que tu poses relève de ce qu'on appelle en théologie par certains théologiens, parce que certains ne sont pas d'accord, l'état intermédiaire. Concrètement, qu'est-ce qui se passe entre notre mort physique et le retour de Jésus qui va coïncider avec la résurrection de toute l'humanité, de ceux qui croient et qui ne croient pas, parce que les morts vont aussi ressusciter les non-croyants, mais pour le jugement et la mort éternelle. Ils auront un corps, mais flétri. La question de l'intermédiaire est une question débattue, mais personnellement, je pense que les personnes qui ont placé leur confiance en Christ, lorsqu'elles meurent, rejoignent Dieu dans le cadre d'une présence consciente. Je fais référence notamment à Philippiens 1, où Paul dit qu'il préfère être dans la présence de Dieu à d'autres passages. Donc je pense que spirituellement, le croyant est auprès de Dieu. Je fais référence aussi aux martyrs d'Apocalypse 6 qui crient vengeance et qui sont toujours en vie spirituellement. Donc je pense qu'il s'agit là d'une présence consciente dans la présence de Dieu et que c'est au moment du retour de Jésus que le corps et l'âme se rejoignent. C'est notamment ce que croit la confession de foi de Westminster qui explique ça assez bien. Une confession de foi très importante dans la vie dans l'histoire de l'Église. Quant aux âmes de ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus, je pense qu'elles ne sont plus dans la présence de Dieu, mais dans le cadre aussi d'une certaine conscience. Et là, je vous renvoie à la parabole de Jésus dans Luc chapitre 16, des versets 19 à 31. La seule parabole où Jésus nomme l'un des protagonistes, Lazare. C'est la seule parabole de tous les évangiles où l'un des protagonistes est mentionné nominalement, Lazare. peut-être pour nous faire prendre conscience de la réalité de ce que Jésus est en train de parler. Et là, Jésus est en train de brosser le portrait de deux réalités spirituelles éternelles. Lazare, qui est dans la présence consciente de Dieu, dans le sein d'Abraham, et l'homme riche qui est dans la présence, ou dans la non-présence de Dieu, mais de manière tout aussi consciente et qui souffre. C'est ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Là aussi, c'est une question débattue qui fait l'objet de positions différentes. Oui, c'est ça, ouais. On a l'impression, c'est pour ça que je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut être prudent dans ce qu'on dit. C'est la seule parabole qui irait dans ce sens. C'est peut-être une anticipation aussi du jugement final. Je pense qu'on va... Ouais. Merci à tous de vos questions, de votre intérêt et de votre patience. Merci beaucoup.